Dans le troisième chapitre de l'âge d'homme, Michel Léris a recours pour décrire l'acte amoureux à une expression qu'il emprunte à la tauromachie. Il parle de terrain de vérité. Le terrain de vérité n'est autre que l'arène, bien sûr, c'est-à-dire le lieu même du combat. Et dans un autre livre, à peu près contemporain de l'âge d'homme, Miroir de la tauromachie, Léris élargit tout en le précisant le sens de cette expression. Terrain de vérité, dit-il en substance, sont ces sites où certains événements, certains objets, certaines circonstances, là je le cite, très rares, nous donnent le sentiment, lorsqu'il advient, qu'il se présente devant nous ou que nous y soyons engagés, que leur fonction dans l'ordre général des choses est de nous mettre en contact avec ce qu'il y a au fond de nous de plus intime, en temps ordinaire de plus trouble, sinon de plus impénétrablement caché. Cette intuition est riche de résonance. On ne peut manquer d'abord de reconnaître en elle ce qu'elle doit au premier manifeste de Breton et au surréalisme défini en 1924 comme, je cite Breton, un automatisme psychique par lequel on se propose d'exprimer le fonctionnement réel de la pensée. Et on peut ne pas être sensible à ce qui, plus lointainement, s'y montre d'une poétique baudelairienne, des correspondances entre le monde et l'âme, aussi bien que de ce qu'on peut appeler une anthropologie de la vérité. Mais, autre prolongement, le terrain de vérité révèle, lorsqu'il se présente, la dynamique même du vivant. Cet accord entre soi et la nature, je cite Léris, et la nature ambiante, revêt l'aspect d'une sorte de tangence, c'est-à-dire d'un bref paroxysme qui ne dure pas plus qu'un éclair et doit sa fulgurance au fait d'être situé au carrefour d'une union et d'une séparation, d'une accumulation et d'une dépense. Fin de citation. Et c'est ici à Mauss que Léris emprunte explicitement un modèle vital venu des théories du sacrifice. L'exemple de la tauromachie lui permet ainsi d'établir un lien dans la chaîne des cultures entre les rites sacrificiels, la tragédie dont elle découle, les jeux, l'amour et l'art. Car, et c'est une troisième perspective dans laquelle entendre la notion, les terrains dont il est ici question s'ouvrent à une infinité de pratiques qui, de la corrida à l'érotisme, du cinéma au funambulisme, de la peinture au concert de rock, ont entre elles ceci de commun, qu'un sujet s'y expose au regard de ses semblables, comme fait Léris lui-même à travers l'âge d'homme, dans une épreuve dont l'issue décidera de ce qu'il est vraiment. Et c'est en m'autorisant de cette troisième compréhension de l'expression que je voudrais ici tenter d'approcher certains textes d'Henri Raynal, textes auxquels il me semble que la notion forgée par Léris peut apporter un éclairage particulièrement riche. Car Henri Raynal fréquente assidûment les terrains de vérité. Il s'en fait le géographe, le géologue, le cultivateur, l'aficionado, parfois, tout bonnement, l'arpenteur. Deux textes, notamment, m'inclinent à le penser, qui ont trait tous deux au corps humain, Ordonnance du brasier et le flamenco, d'une part, et Assomption et ravissement du visage, extrait tous deux de Dans le dehors, 1996. Que disent ces pages? Et surtout, que font-elles? Exemplaires à maints égards de la manière de leur auteur, elles me semblent d'abord tracer une délimitation dans l'espace. Conformément à ce qu'exige toute agriculture, mais aussi toute culture, elles posent les bornes de ce qu'on nomme, ici et là, un champ, c'est-à-dire un territoire propre au déploiement d'un projet. Un champ n'est jamais donné. Il résulte d'une décision prise en connaissance de tout ce qui le dépasse, par exemple, les autres champs, la terre, le cosmos. On vient de loin pour reconnaître un champ, on doit aussi longuement éprouver son manque, l'indétermination à laquelle il remédiera, le chaos qui le précède et qu'il sera chargé de dissiper. Et c'est probablement parce que nous sommes tous des exilés de naissance que s'impose dans nos relations à la terre la nécessité de circonscrire. Il s'agit, en somme, de lever une aire dans l'espace, d'y instaurer un ordre, des limites, de fonder mes propriétés, comme disait Michaud, qui mieux que personne les savait incertaines, menacées et parfois menaçantes. Les objets auxquels s'intéresse Henri Raynal mobilisent une pensée de la limite, pensée d'autant plus nécessaire qu'elle s'élève sur l'horizon d'une considération continue de l'illimité. Voyez par exemple la robe de la fillette qui illustre l'oxymore éponyme de « dans le dehors ». Je redis ce texte, la frontière fait d'elle un contenant et l'on informe, frontière miraculeuse, car ce savoir ne va pas sans cet autre, donné en même temps, et le contentement qui en résulte, elle est contenue. Contenue à la fois strictement et docilement, conformément à ses mouvements, à son souffle, contenue immensément, libre est ce qui est, et ce qui, avec tant de soin et de précision, l'enveloppe. Fin de citation. Et Raynal poursuit sur un registre plus général, mais aussi plus intime. Qu'est-ce que la beauté? La beauté consacre la frontière. Le lieu de la beauté est le contact. Là où se produit le contact, où s'offre la beauté, il est impossible de séparer ce qui s'est tourné vers l'espace et l'espace lui-même, qui se comporte comme une caresse à l'égard de ce qui le rejoint, se glisse en lui. Les deux sont confondus. Fin de citation. Merleau-Ponty parlait du recroisement du touchant et du tangible, de la manière dont, disait-il, les sens communiquent entre eux en s'ouvrant à la structure de la chose. Il y a, chez Henri Raynal, une justification esthétique de la phénoménologie du toucher, un émerveillement inspiré par les confins du corps propre. C'est là que se situe, pour cet écrivain de la tactilité, le champ et le sens de l'écriture. Comment un écrivain choisit-il ses objets et ses lieux de prédilection? De quelle manière, pour parodier Ponge, prend-il le parti et son parti des choses? Et lève-t-il, prélève-t-il dans le non-moi ce qui va concerner au plus haut point l'aventure de son moi? L'idée d'un terrain de vérité implique de telles questions. La réponse que le rapporte Henri Raynal, assez proche d'ailleurs, et je crois que ça a déjà été dit ici, assez proche de celle de Ponge, fait apparaître un constant jeu de contraires dans les objets comme dans les textes qui en rendent compte. Le champ élu est d'abord un champ de forces opposées, et c'est ce qui le désigne comme tel. Le bon objet rénalien, en somme, celui qui sollicite l'écriture, est non seulement clivé, comme chez beaucoup d'écrivains, mais ici, franchement, conflictuel. Une tension agonique le traverse, que l'écriture aura charge de déplier, d'exacerber et de résoudre, d'actualiser et de dramatiser jusque dans ses plus profondes implications et, ce faisant, d'apaiser dans une logique articulée. Exemplaire à cet égard, la pensée du flamenco. Exemplaire parce que, d'abord, elle n'est qu'une méditation, on pourrait presque dire une médiation, du corps aux prises avec sa limite. La métaphore inaugurale de ce texte, celle qui s'impose, est empruntée à la tectonique des plaques. C'est celle de deux forces matérielles antagonistes obstinées à s'opposer une résistance mutuelle. Tout l'art de Raynal consiste à convertir subrepticement cette métaphore tellurique et en quelque sorte à la naturaliser dans le corps des danseurs, à en faire en somme une métonymie. L'aveugle flux, c'est l'expression qu'il utilise, décrit précédemment, passe des entrailles de la terre à celles du danseur ou de la danseuse. Ainsi, ce flux peut-il exploser ou éclater dans la chair. Mais un tel jaillissement ne répond pas encore à la visée esthétique qui fonde le projet du flamenco. Il lui faut rencontrer une force antagoniste de rectitude ou de rectification. Et je cite, la résolution de se rassembler autour d'un axe. Ce que résume parfaitement le titre du chapitre consacré à cette lutte, Ordonnance du brasier, qui tire parti des heureuses résonances lexicales en français propres au mot flamenco pour dériver de la flamme au brasier et suggérer de la manière la plus improbable une mise en ordre de la passion réputée brûlante. Le chapitre consacré au visage, Assomption et ravissement du visage, donne un tour plus abstrait, mais non moins décisif, à cet antagonisme. Le visage, nous dit Raynal, est l'expression du mystère de l'absolue singularité, c'est-à-dire de la diversité. Mais il est aussi la manifestation d'une constante, l'un, toujours écrit avec majuscule, retiré en son énigme. La tension est là moins ardente, évidemment, que dans le flamenco, plus abstraite, mais non moins vaste. On pourrait multiplier les exemples qui nous montreraient comment penser un objet, quel qu'il soit, pour Raynal, c'est avant tout y débusquer une contradiction active. Débusquer, c'est là un mot de chasseur. Il évoque autant la traque de l'animal hors de son refuge que les patientes marchent qui y conduisent ou n'y conduisent pas. Il y a ainsi chez Raynal une mise en jambe de l'écriture, un rituel propitiatoire qui passe en général par un exercice de célébration, célébration de la danse, du vêtement, de la montagne ou de tel ou tel peintre. Les textes commencent par épouser l'euphorie de la sensation. Ils excellent à se faire naïfs au sens où ils semblent naître avec la chose dont ils célèbrent les tensions, la connaître, comme dirait Claudel. Je cite, « Voyez comment procède le sculpteur orogénique, lit-on dans l'une des fascinations de Cosmophilie, et aussitôt, en effet, le promeneur en montagne adopte la position de celui qui façonne l'espace où il marche. Et le façonnant s'en laisse fasciner. La langue de Raynal détient ce pouvoir de contemplation démiurgique. Façonner, fasciner sont chez lui deux verbes proches, convergeant d'ailleurs vers un troisième qui dialectiquement les dépasse, émerveillé. L'émotion qui m'unit au monde s'appelle émerveillement, Cosmophilie, page 221. S'émerveiller veut dire ici s'enchanter du mouvement qui tire de moi, ex, la merveille. C'est pourquoi l'admiration n'est jamais séparable chez Raynal, comme chez tous les grands encomiastiques de la littérature ou de la philosophie, de l'acte de création. Elle s'accomplit et, pour ainsi dire, s'échauffe au fil de sa diction même. Mais l'éloge du monde, la cosmophilie, est, on le sait, un chemin semé d'embûches. Monde, infini, tout, cosmos, sont des mots piégés de multiples façons. Et piégés principalement en tant que mots, toujours débordés, non par ce qu'ils signifient, mais par ce à quoi ils se réfèrent. À force d'user de leur pouvoir d'intimidation, de céder à leur force tétanisante, et elle est considérable, on risque de tomber dans le verbalisme. « Le monde m'émeut », dit encore Raynal. Pareille déclaration, placée en tête de l'un des textes de Cosmophilie, offre un exemple de ce qui pourrait définitivement replier le discours sur lui-même et, sous l'apparence d'un angle immensément ouvert, évidemment, ne constituer que l'angle mort d'un solipsisme sans objet. Car pour entrer dans un tel propos, il faudrait commencer par établir la pertinence de ce singulier, le monde, dont il n'est pas certain que le sens soit seulement audible aujourd'hui. J'épingle, en passant, quelques remarques orientées dans cette direction critique. J'ai cité ce matin celle de Paul Valéry, « L'univers n'existe que sur le papier ». Ou Blanchot, « Être artiste, c'est ignorer qu'il y a déjà un monde ». À quoi fait écho, ou à quoi font écho, les manières de faire des mondes de Nelson Goodman. Ou encore, lorsqu'Alain Badiou parle de l'infinie multiplicité du monde dans laquelle nous vivons, Jean-Luc Nancy lui répond que, je cite, « La multiplicité du monde ne reste même pas la multiplicité d'un monde, elle qualifie le monde comme hétérogénéité des mondes. » Fin de citation. Il explicite ainsi, Jean-Luc Nancy, après d'autres, une rupture avec l'âge des romantismes européens. S'il n'est pas possible, je cite encore Nancy, s'il n'est pas possible en ce moment de proposer un monde, cette supposée défaillance n'est en tout cas pas à imputer à l'art et aux artistes, comme le font certains, mais bien au monde ou à son absence. Fin de citation. La vaste homologie qui définissait la structure et la solidité du cosmos, audible et visible de part en part, s'est perdu entre l'âge romantique et, par exemple, les pensées territoriales de Deleuze et Guattari. Quelque chose de l'unité cosmique s'est effacé, tandis qu'a décliné la toute-puissance anthropocentrique. Monde est en somme devenu le signifiant le plus indéterminé de la langue. On voit mal dès lors comment il pourrait s'accorder à ce qui, chez le sujet, constitue une réaction essentiellement adaptative aux circonstances les plus déterminées, à savoir l'émotion. Celle que soulève le monde pourrait bien, dans ces conditions, ne traduire qu'une lointaine persistance romantique et être ainsi devenue impartageable. Heureusement, Henri Raynal écrit. Et écrivant, il dépasse de toutes parts cette nostalgie moniste dans des objets qui la diffractent et l'incarnent. Et c'est au moment où l'écriture ausculte précisément l'hétérogénéité, l'infini détail de ce qu'elle a d'abord appelé le monde, qu'elle se constitue, qu'elle devient elle-même, qu'elle s'affranchit de la fascination pour entrer proprement dans le façonnement. La notion de terrain prend ici toute sa pertinence au triple sens de délimitation, d'empirisme et de construction. Trois notions que je vais reprendre rapidement. J'ai dit plus haut l'attrait d'Henri Raynal pour les délimitations. Chaque texte n'est au fond qu'une tentative pour cerner et discerner mieux un phénomène, pour dire son insertion dans l'espace et sa claustration, en nommant ces zones limitrophes où un sujet exacerbe sa puissance à la rencontre de l'énergie sans bord, sans nom. C'est une citation. Ces zones portent couramment ici le nom de robe. On pourrait encore les appeler vêtements ou enveloppes. Elles représentent, sous quelque aspect qu'on les appréhende, la double fatalité du vivant d'être, d'une part, contenu et, d'autre part, de rayonner hors de soi. Il reviendra à l'écriture de rendre compte de ces postulations contradictoires, de saisir le sujet sur ce point d'oscillation où il est à la fois gonflé de sa subjectivité et répandu dans le désordre extravagant de sa robe, telle cette magnifique vierge à l'enfant assise dans une cour de Martin Schongauer sur laquelle s'achève la description du flamenco. Car si écrire, c'est se porter par prédilection sur des frontières objectives, c'est aussi procéder à une lente recherche, à une lente exploration des limites de l'expression. Si bien que chaque texte se présente un peu comme l'un de ces lieux de contact, une de ces surfaces liminaires dont on fait le tour en avançant. Rejouant de la manière la plus concrète une étymologie commune que vient de rappeler Anne Gouriot entre les deux mots, Raynal aime parler des tissus dans des textes infiniment plissés, moirés, nuancés, comme le manteau de Fortuny, cher à cet autre amateur d'étoffes textuelles qu'est Gérard Massé. Or, de toutes les figures de l'arsenal rhétorique, la mieux appropriée à cette saisie est celle qui maintient la phrase en déséquilibre, dans l'incertitude d'une approche et le suspend de toute résolution. On nomme épanorthose le geste de se reprendre, de corriger l'affirmation en vue d'une affirmation plus juste ou plus vraie ou plus proche. La stylistique d'Henri Raynal a fait de l'épanorthose un de ses traits favoris. Voici un paragraphe d'Ordonnance du Brasier qui en témoigne. Une autre énonciation, la suivante, était possible. Une autre énonciation, le texte commence comme ça. Le solennel trépigne, ou bien, celle-ci, pour peu qu'une fois encore on inverse les termes permutables à loisir, le spasme, attelé, conduit, se voit obligé de se métamorphoser en cérémonie. Converti, ce qui déferle, en maniérisme. Ce dernier, toutefois, d'une exactitude impitoyable, coupante. Sophistication, certes, mais à poigne. Élégance belliqueuse, menaçante, aux nerfs à vif. Tendu par la contrainte du haut défi, par sa détermination, sa dédaigneuse vigilance. Le désir, parvenu au sommet de lui-même, fait un tour sur lui-même, accédant à la lucidité, au discernement subtil, il se fait morgue, à son endroit, se toise. À quoi assiste-t-on ici? À une sorte d'étreinte progressive du danseur dans les boucles de la phrase. Celui qui écrit ne rature pas, ne se repent pas, du moins le semble-t-il. Il livre, au contraire, les états de sa prose, de son prosus, afin de nous faire éprouver avec lui le mouvement d'approche et du même coup les mouvements constitutifs de ce qu'il représente. Comme le rappelle Bruno Clément, l'épanorthose a pour effet de créer le mouvement reliant deux aspects d'une même vérité qui n'aura jamais d'autre expression que ce mouvement même. On avance en direction de quelque chose, on épouse en chemin tous les plis de langue qui y conduisent, plus efficaces, plus rapides, plus nerveux que les verbes, sortes de nerfs à vif eux-mêmes, les substantifs sont ici bons conducteurs du flux, d'où l'abondance de ces phrases nominales. Dans cette approximation tâtonnante, le danseur exhibe ses dons d'improvisateur. Voilà qui intéresse au plus haut point celui qui, de son côté, tente de le peindre dans l'empirisme de sa phrase. Car écrire, nous dit Raynal, suivant en cela la leçon d'un spectacle de flamenco, c'est encore répondre aux sollicitations de l'instantané, se tenir sur le fil tendu entre des forces opposées, garder l'équilibre au milieu des vents contraires, bref, improviser. Le langage a chez lui son souffle propre, a le temps selon le qui-vive des objets qu'il explore. On pourrait, là encore, suivre la pensée de Merleau-Ponty et remarquer à propos du flamenco que, je cite Merleau-Ponty, « la parole est un véritable geste » et qu'elle contient son sens comme le geste contient le sien. Il y a en effet un empirisme de la vérité, celui qu'évoque le mot de terrain tel que l'emploie, par exemple, les sociologues ou les archéologues, tel qu'il se présente à certains écrivains, comme Henri Raynal, bien sûr, ou comme Michel Léris, mais aussi, selon des manières très différentes, Henri Michaud, Philippe Jacotet, Francis Ponge, et beaucoup d'autres, pour qui écrire revient à s'initier aux choses, mais pour qui aussi, je crois, la vérité est formée de mains alliages improbables, s'élabore à partir de contradictions irréductibles à aucun concept simple, naît en somme d'une lente, d'une incertaine construction. Qu'est-ce qu'une robe ? Nullement un produit d'usage, si l'on en croit Henri Raynal, ni non plus l'instrument d'un paraître. Elle serait plutôt un monument, c'est-à-dire très précisément une construction. Et de fait, ce qu'il y a de si attachant dans le spectacle de la danseuse Marisol, c'est moins la parure que le travail du vêtement, cette élaboration complice du mouvement de la danse, comme si conjointement aux figures du flamenco, nous assistions sur la même scène à une autre danse. Je cite, le jaune s'achève, se couronne dans la blancheur qu'une écume apprêtée appose sur lui. Il plaît au blanc de s'ébaudir dans les jolies contorsions des deux volants qui soulignent le V aigu du décolleté dorsal, puis passe par-dessus les épaules afin de se rejoindre mêlé en un jabot et trois relativement, qui, descendu de la gorge, dégringole assez longuement pour atteindre l'aine. Fin de citation. La phrase, là encore, travaille concomitamment ses propres sinuosités, semble enlacer le corps comme tout à l'heure elle faisait celui du danseur, dans un retard prolongé de la chute qui participe de la double séduction, de l'érotisme et du maniérisme. Les terrains de vérité chez Raynal sont des terrains constructibles. Il s'agit, pour celui qui s'y aventure, d'édifier un bâtiment, on dirait peut-être mieux d'ailleurs un bâti, qui offre la particularité d'une parfaite fluidité où le fluide fait paroi. C'est une citation, où le fluide fait paroi. J'ai cité tout à l'heure Gérard Massé, et il n'y a guère que son manteau de Fortuny, en effet, dont puisse être rapproché ce rêve central d'une construction d'étoffe mouvante. L'essai poétique de Massé, on le sait, est une méditation consacrée à un motif proustien qui, pour ainsi dire, habille le corps d'Albertine de toutes sortes d'images venues de la peinture vénitienne. Mais alors que chez Proust, comme chez Massé d'ailleurs, les robes et le fameux manteau de Fortuny ont toujours une fonction mémorielle, rappelant par exemple le souvenir de tel peintre ou de Venise tout entière, ou rebrodant l'image même d'Albertine disparue sur le dos d'un des personnages de Carpaccio, dans un trajet qui va de l'immédiateté sensible à de grandes images culturelles, Raynal, lui, suit à travers ses tissus, un trajet inverse. Celui qui détache le vêtement de sa charge pittoresque pour le ramener au plus près du corps. Il faut lire attentivement ici ces pages où les choses inertes s'animent au contact de la chaleur vivante. Et par une grâce toute métonymique, elles deviennent à leur tour ce qu'elles effleurent. C'est le collant qui moule le corps de la patineuse, je cite, « depuis les tempes jusqu'aux pieds » dans Tournette, ou le lisse édifice de « sur une robe ». Dans les méandres de la phrase, le sujet chaque fois s'égare volontairement. On ne sait plus du corps vêtu, du tissu qui le vêt ou de la femme elle-même qui frémit le plus. Le mouvement assez épanoui pour accueillir la proposition de s'infléchir se laisse tenter avec empressement, se creuser, telle une femme, pour tout dire, devenue femme. Commence alors une évocation de la vie physique, morale et psychique du vêtement métamorphosé en cet être traversé de tentations, d'hésitations, de désirs et de pudeurs, en un mot, de pulsions contradictoires. Tandis que par derrière, ou par dessous, ou par dedans, comme on voudra, la femme a disparu. Revenons maintenant à la définition du terrain de vérité telle que nous l'a livré Léris. Je redis quelques mots de cette définition. Leur fonction dans l'ordre général des choses est de nous mettre en contact avec ce qu'il y a au fond de nous de plus intime, en temps ordinaire de plus trouble, sinon de plus impénétrablement caché. Si de tels lieux existent, alors le vêtement liquide et impénétrable à la fois, la robe protectrice et révélatrice, et au-delà encore la piste de danse où s'affrontent rectitude et débordement, tous ces emblèmes fracturés dans leur essence illustrent ce dont parle Léris. Et non seulement en vertu de ce qu'ils représentent, l'énergie motrice qu'ils soulèvent dans la langue, le mouvement qu'ils déclenchent dans des textes d'apparence parfois si frivoles, valent qu'on reconnaisse là, en effet, la révélation de ce qu'il y a de plus trouble et de plus inaccessible dans la psyché. Car ce qui se joue sur ces terrains-là, c'est au fond une tentative sans cesse réitérée de porter l'impénétrable, cosmique ou intime, peu importe, sur le devant de la scène de l'écriture. On comprend mieux dès lors le sens spécifique du mot « vérité » ici. Est vrai ce qui vérifie la labilité de l'intérieur et de l'extérieur, ce qui dissout même cette distinction dans le spectacle qu'il exhibe. Voici pour finir deux textes qui parlent l'un et l'autre à peu près de la même chose, avec des moyens très différents, l'un de Proust, l'autre de Henri Raynal. La prisonnière d'abord. Avant qu'Albertine m'eût obéi et eût enlevé ses souliers, j'entrouvrais sa chemise. Ses deux petits seins haut remontés étaient si ronds qu'ils avaient moins l'air de faire partie intégrante de son corps que d'y avoir mûri comme des fruits. Et son ventre, parenthèse, dissimulant la place qui chez l'homme sans l'édit comme du crampon restait fiché dans une statue décellée, fin de parenthèse, se refermait à la jonction des cuisses par deux valves d'une courbe aussi assoupie, aussi reposante, aussi claustrale que celle de l'horizon quand le soleil a disparu. Elle ôtait ses souliers, se couchait près de moi. Fin de citation. Et voici maintenant un extrait de « Sur une robe » d'Henri Raynal. Le lisse édifice peut bien se permettre tous effets plaisants, ravissants, troublants. C'est ainsi qu'il reprend sur soi ce qu'il a pour raison d'être originel, de masquer, au point de le faire oublier, de reporter à son niveau, à lui, ce qu'il dénie, qu'il ne craint pas de l'évoquer en le reproduisant selon les façons enrobées qui appartiennent au tissu. Toutefois, il est obligé de s'arrêter en cours de route, sur ce chemin glissant. Sinon, il enfreindrait les bonnes manières, se priverait de la délicieuse prudence allusive et manquerait à ce tact de la suggestion qui agit d'autant mieux qu'elle n'affirme rien et donc n'effarouche pas. À vrai dire, il n'a pas le choix et ne peut renoncer aux surprises, trésor d'imagination, de l'implicite. Au fond de la combe, quand ce n'est pas du ravin qui en l'étoffe se façonne, à la façon de ses dispositions uniques, la matière si souple se refuse à livrer passage. Deux visions de l'origine du monde qui se représentent comme deux fenêtres entrouverte, c'est l'expression de Proust qui joue évidemment sur le charme prometteur de l'antre, deux scènes d'Eros, donc, moins vues que rêvées, et qui s'achèvent toutes deux par la dimension d'un paysage de chute. D'un côté, l'horizon quand le soleil a disparu, de l'autre, une combe et un ravin. Deux textes qui suscitent à la fois une forte mobilisation métaphorique et un non moins solide aveu d'impossibilité face à l'objet. Proust multiplie, avec humour, les comparaisons déceptives quant à la scène amoureuse initialement promise. Vous voyez notamment la laideur de ce crampon resté fiché dans une statue décellée. Scène qui s'achève chastement, et là aussi avec un sourire, sur « Elle ôtait ses souliers, se couchait près de moi ». Rénal, d'une manière similaire, accumule les marques d'interdit, les bonnes manières, la délicieuse prudence allusive, le tact de la suggestion et finalement le refus. Mais l'interdit n'est pas l'impossible. Il se transgresse de mille manières, lui. Sa nature sociale, exprimée aussi en termes un peu surannés, en fait une sorte de réprobation grondeuse, mais qui se prête, comme le tissu, à tous les contours, à toutes les surprises de l'amour, et qui finit par suggérer, à travers le signifiant, ce que le signifié refusait. Je cite, en rassemblant quelques-uns des vocables de la citation, « Le glissement sur ce lisse édifice de tissu des effets ravissants qu'aiguise la délicieuse prudence jusqu'à leur accomplissement dans l'implicite. » Ce sont là deux manières de traiter avec la sidération. Ici, chez Proust, plus nettement castratrice et humoristique, là, plutôt ondoyante. Mais quelle que soit leur différence, ces deux textes nous parlent d'abord de l'innommable et des détours infinis qu'il occasionne à travers la langue. Léris nous avait prévenu, l'archétype des terrains de vérité, c'est la scène amoureuse. Mais le dire ainsi, c'était déjà poser une formule sur ce qui proprement ne se laisse dire. Préparer donc le champ à une possible expérience des confins, autrement dit, délimiter le territoire de ce que nous appelons la littérature dans son essence fantasmatique. Je vous remercie.